Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
Et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université Libre de Bruxelles, une radio que vous écoutez sur le 92.1 en FM bien évidemment et sur www.radiocampus.be. Bienvenue dans la Conspiration des Planches, votre magazine critique des arts de la scène à Bruxelles. Ça fait quelques semaines qu'on dit qu'on est en fin de saison, mais il y a encore plein de choses à faire. Donc voilà, et ce sera encore l'occasion de les découvrir et d'assouvir votre curiosité cette semaine avec notamment un rendez-vous en tout cas, à vous donner du côté de la Bellone, avec les Laboréales, 3e édition, qui sont là pour vous proposer un panorama de création interdisciplinaire, multidisciplinaire, inter ou multi, c'est toujours la question. Mais voilà, on en discutera justement, on a un invité avec nous qui nous en parlera et qui nous donnera la preuve de son travail dans quelques instants. On ira aussi voir un petit peu ce qui se passe du côté du Théâtre Marny, qui poursuit et termine son D-Festival, 2e édition de ce festival de danse à Bruxelles, et également du théâtre et une tragicomédie israélienne, c'est
tout
bien
à
ça
fait,
voilà, Elisabeth est là d'ailleurs, avec une marche dans la nuit, une marche nocturne.
Une déambulation.
Voilà, une déambulation. Bonsoir Elisabeth.
Bonsoir, bonjour.
Bonsoir Olivier également.
Bonsoir Nicolas.
Et bonsoir Mathias Varenne.
Bonsoir.
Alors, s'il est là, c'est pas pour rien. C'est pour nous parler notamment des Laboréales 2012, Olivier.
Voilà, c'est la 3e édition de ces Laboréales. Alors, les Laboréales, c'est un espace de recherche pour la jeune création belge, pour les jeunes qui sortent des différentes écoles de l'espace francophone en Belgique. Et c'est un espace qui leur est mis à disposition pour mener une recherche avec l'objectif de mélanger le champ artistique et ce qui ne relève pas justement du domaine artistique comme l'écologie, la politique, voilà. C'est vraiment un espace hybride.
Laboratoire, vraiment comme...
Voilà, de laboratoire transdisciplinaire.
Voilà.
Et qui... dont aussi une des caractéristiques est de confronter cette recherche au public. Donc ils doivent, ces jeunes projets, ici il y en a 5 qui sont sélectionnés, doivent se confronter au public. C'est ce que l'on va voir ce week-end à la Bellone.
Ça se passera donc du 15 au 17 juin. On donnera les informations pratiques, bien évidemment, tout dans quelques instants. D'abord, on va se tourner vers Mathias Varenne, peut-être, qui vient nous présenter sa création, preuve qui sera présentée.
Voilà, Mathias Varenne, que l'on a déjà pu voir dans les pièces de Armel Roussel ou de
Notting Earth,
Lucille Camel sur le projet David Wojnarowicz, nous présente son premier projet de mise en scène et d'écriture, La
Tout
Preuve. Alors, est-ce que tu peux un peu nous dire quel est le point de départ de ce projet ?
Le point de départ, comme beaucoup de créations, c'est un livre à la base, donc qui s'appelle La Preuve, qui est d'un auteur argentin qui s'appelle César Aira, qui s'intéresse beaucoup à l'adolescence et qui écrit beaucoup de petits livres, plutôt des livres d'une centaine de pages, des choses très courtes, très instantanées, et qui raconte l'histoire de 3 adolescentes de 14-15 ans qui se rencontrent à la sortie de l'école. Et 2 d'entre elles approchent la 3e et lui disent qu'elles l'aiment, sans aucune raison. Et s'ensuit donc une longue discussion, parce qu'évidemment, incompréhension de la 3e, à savoir pourquoi il y a cet amour qui lui est annoncé comme ça. Une longue discussion adolescente, plutôt très naïve, parfois très ennuyeuse, sur la vie, l'amour, le punk, le nihilisme, qu'est-ce que c'est être punk, qu'est-ce que c'est d'être aimé, qu'est-ce que c'est d'aimer, et la découverte que l'amour existe par ses preuves, avant tout. Juste la fin s'ensuit, donc la dernière partie du livre où les 2 qui ont accosté la 3e l'emmènent dans un supermarché et brûlent et tuent tout le monde dans le supermarché comme une preuve d'amour.
C'est ce à quoi j'allais arriver. Voilà. De l'amour, de la violence également. C'est ce mariage des deux qui t'a intéressé également ?
Oui, parce que j'ai toujours été assez intéressé par les artistes assez troubles et assez à la limite, en tout cas qui travaillent avec cette limite. Et en même temps, je suis toujours en questionnement de comment est-ce qu'on peut travailler de cette manière-là, tout en étant rassembleur et en servant du théâtre pour moi, qui est avant tout un lieu de rassemblement et qui doit le rester, à mon avis. Mais comment quand même aller titiller nos humanités, nos perceptions de la vie, de l'amour, de la mort, de nous-mêmes, de plein de choses.
Dans nos frontières, justement, voilà. Dans les frontières de l'humain.
Ouais. Et le, ouais, voilà.
Le côté multi-pluri-transdisciplinaire, comment est-ce qu'il s'exprime ?
Alors on travaille...
Oui. T'étais pas tout seul. Hein.
Non, non. Donc après, voilà, j'ai constitué une équipe d'horizons très divers que j'ai rencontrée justement sur d'autres projets que j'ai faits auparavant. Donc il y a Gaëtan Rusquet qui est performeur et scénographe. Il y a Damien Petitot qui est vidéaste, sculpteur, plasticien.
Il est là dans le coin d'ailleurs. Silencieux, c'est normal. Pour un homme du son. C'est tout à fait normal.
Et une comédienne, Nathanaël van der Smissen.
Parce que Damien a sculpté des poupées
à taille humaine qui sont nos victimes.
Voilà. C'est là l'aspect un petit peu installation. D'ailleurs, peut-être disons-le tout de suite, tu donneras ta création, enfin tu la présenteras à deux reprises durant ce week-end, mais l'installation sera continue et notamment cette installation poupée sera visible durant toutes ces laboréales.
Durant les trois soirs, oui.
Okay. Alors précisons que ce n'est pas une pièce définitive, c'est un workshop.
Comme tout ce qui est présenté au Laboréal, en fait, on a un temps de résidence qui est de l'ordre de 3 semaines. Ça fait une quinzaine de jours de plateau, donc c'est évident que les choses ne sont pas abouties et qu'on est vraiment là pour présenter les étapes de recherche. Oui, voilà.
Okay. Là, maintenant, tu vas nous faire une petite lecture du texte que tu as écrit, qui est en introduction de ce que l'on va voir samedi et dimanche.
Juste une petite question avant de commencer. Tu dis que tu t'es inspiré de ce livre et donc tu as fait un retravail d'écriture par la suite où il y a vraiment des phrases clés qui te sont restées de ce livre.
Il y a des phrases clés qui restent, mais c'est vrai qu'il y a un vrai retravail d'écriture et une envie d'utiliser ce livre vraiment comme un point de départ de réflexion et de création.
Eh bien, on va écouter ça tout de suite. Un extrait donc de La Preuve par Mathias Varenne. On va se taire un petit peu et on va vous laisser aussi profiter de cette création, donc avec fond musical, bien évidemment, quand tu veux.
Donc, c'est un passage du monologue de l'adolescent. Et au début de l'histoire, il pleut. Donc, on a prévu un petit son de pluie. Merci. Une nuit, moi et mes amis, enfin mes amis, on n'était pas vraiment des amis, mais on avait appris à se retrouver dans certains endroits de nous-mêmes que nous avions appris à sociabiliser, comme notre momentanée adoration pour tout ce qui concernait le punk, ou bien Robert Smith de The Cure, qui appartenait à la génération de nos parents, on le savait, mais putain, ce qu'il était cool avec son maquillage et ses cris de bébé dans ses chansons. On avait même décidé de monter un fan club dont l'entrée était exclusivement réservée à nous cinq. Donc une nuit, moi et mes amis, Laura, Aïcha, Paul et Martin, avons eu la permission d'aller faire du camping dans les bois. On s'était chacun retrouvé avec notre énorme sac à dos bourré par nos parents de vivres et de couvertures. Moi, j'avais pris en plus au fond de mon sac Virginie, la chatte de mon voisin, en me disant que ça serait cool d'avoir une mascotte pour le club. Je l'avais enfermée dans un sac et après bien 2 heures d'hystérie complète, elle s'était enfin résignée à son sort, non sans avoir uriné à plusieurs reprises, ce qui avait donné une odeur définitive aux couvertures et aux sandwichs ton mayonnaise de ma mère. À peine on s'était installé près d'un gros chêne sous lequel on avait décidé de passer la nuit que j'ai sorti Virginie pour la présenter à mes potes. Le nœud du sac me résistait, alors Aïcha, qui avait des ongles très longs avec des Hello Kitty souriants collés dessus, a pris le relais. Et avec une dextérité fascinante et en moins de 2 secondes, elle a réussi à libérer le corps de Virginie et à le plaquer au sol. Mais Virginie l'a immédiatement griffé à la main et Paul et Laura sont venus à la rescousse pour la tenir pendant que moi et Martin avons défait nos lacets pour l'attacher par les pattes à 2 troncs d'arbres proches de nous. Liée comme ça, elle ressemblait plus à un lapin qu'à un chat, ce qui était vachement moins cool comme mascotte. Mais en même temps, ça n'avait pas vraiment d'importance. On s'est mis en cercle autour de l'animal. Pendant un long moment, personne n'osait même respirer, tellement on était en extase face à ce corps hystérique, tressautant et hurlant devant nous. Paul a pris une branche morte près de lui et a commencé à appuyer sur le flanc de Virginie qui hurlait à la mort. On pouvait voir la résistance tenace de ses muscles. Paul a d'abord appuyé doucement, puis a essayé d'enfoncer de plus en plus fort le bâton dans le corps de Virginie. Virginie, épuisée, a fini par se calmer et la seule forme apparente de vie qui lui restait était ce allaitement quasi silencieux. Chaque fois qu'il retirait le bâton, le flanc reprenait sa forme initiale, aucune marque, aucune trace. Alors j'ai eu une idée. J'ai arraché le bâton des mains de Paul et j'ai commencé à le presser de nouveau contre le flanc de Virginie, d'abord à une main, puis à deux. On a commencé à entendre ses côtes se briser et ce bruit a éveillé chez nous la plus grande curiosité et Paul et Aïcha se sont joints à moi. On a fait pression sur son flanc de plus en plus fort jusqu'au moment où notre bâton a transpercé en 1/100 de seconde et sans un bruit le flanc de Virginie qui s'est mis à émettre un son strident comme jamais on en avait entendu. Nos 5 corps se sont alors suspendus dans l'espace-temps. Chacun retenait son souffle et écoutait la longue plainte de Virginie. On a aperçu un léger filet de liquide rouge qui commençait à sortir entre la peau de Virginie et le bâton enfoncé dans sa chair. J'ai retiré le bâton d'un coup sec et le sang s'est mis à jaillir en une petite fontaine carmin en même temps que le cri de Virginie s'est stoppé net. Nos 5 rires adolescents ont rempli toute la forêt et puis, chacun notre tour, on a enfoncé le bâton dans le corps de Virginie. D'abord en prenant le temps, comme la première fois, comme si on souhaitait vivre encore et encore cette expérience du moment où l'on passait de l'extérieur à l'intérieur et ensuite on a commencé à s'acharner dessus comme des fous. On était des dieux destructeurs. Chacun à son tour, on prenait le bâton et chacun à son tour, on l'enfonçait aussi profondément qu'on pouvait en prenant son élan en hauteur et en hurlant. Nos fronts perlaient, la sueur se mélangeait au sang sur le sol recouvert de feuilles. Des morceaux de chair restaient collés le long de notre arme et on frappait, on frappait, on frappait en hurlant. Des morceaux de chair volaient. Le corps de Virginie avait déjà complètement disparu mais on continuait à s'acharner sur des morceaux de viande sanguinolents. Aïcha est tombée au sol et alors là on s'est tous mis à partir dans un fou rire comme jamais on en avait eu dans notre vie. On a tous commencé à se rouler par terre en riant et puis Martin s'est relevé et a pris une grosse poignée de terre et de morceaux de viande et en même tant que sa bouche riait, ses yeux nous ont lancé un défi, un vrai cette fois. Et devant nous, il a enfoncé sa main remplie de boue et de Virginie dans sa bouche. Il nous a regardés encore un moment et il a tout avalé en 1 seconde, sans même gémir. On était tous soufflés. Et alors chacun notre tour, on s'est levé, on a pris une énorme poignée de terre et de Virginie, on a regardé les autres de toute notre hauteur et on a tout avalé. Et quand tout le monde l'avait fait, ben on était calme, ouais. Apaisé en fait. Moi et Laura, on a ramassé les restes de Virginie et on les a enterrés dans un petit trou qu'on a creusé sous un arbre et pendant ce temps, les autres ont construit une cabane et fait un feu. Et après, on a passé toute la nuit à chanter « Killing an Arab et Boys Don't Cry » et on s'est raconté des histoires d'horreur en buvant du coca et en mangeant des saucisses. Et puis au petit matin, comme Paul et Laura s'étaient endormis, moi, Martin et Aïcha, on a décidé d'aller se promener dans la forêt. On marchait super lentement. On était complètement ouverts au bruit et aux odeurs de la forêt, personne ne parlait. Et puis, comme venu de nulle part, dans un seul souffle, Martin a lâché « Est-ce que vous avez déjà aimé quelqu'un ?» Personne n'a répondu. Il avait dit quelque chose de vachement important et on le savait tous les trois. Il venait vraiment de dire quelque chose de vachement important et on le savait tous les trois. Il se mettait à nu devant nous. Il posait la bonne question qui n'appelait aucune explication, juste un oui ou un non, qui pourrait tout transformer. Mes yeux et ceux de Aïcha se sont croisés 1 seconde, pas plus. J'ai juste vu qu'elle me souriait et alors là, je ne sais pas pourquoi, mais mon corps s'est arrêté. J'étais là, les bras ballants, je regardais fixement le sol. Et mon cœur battait si doucement. Les autres ont continué à avancer quelques mètres et puis se sont retournés pour voir ce qu'il se passait. Alors j'ai levé mon visage vers eux et j'ai plongé mes yeux pleins de larmes dans les leurs. Et alors, Martin m'a souri. Et Aïcha aussi. Et ils se sont approchés de moi. Martin a posé sa main sur mon épaule, et Aïcha aussi. Et on s'est embrassés, là, au milieu de la forêt alors que le ciel commençait à peine à s'éclaircir. Nos langues se sont d'abord mélangées timidement et puis Aïcha enfonçait un peu plus profond sa langue dans nos bouches et Martin aussi et moi aussi. Et à un moment, on a senti les restes de la petite odeur fétide de Virginie dans nos bouches et alors on s'est serré aussi fort qu'on pouvait et alors nos larmes et nos sourires et nos langues et la petite odeur fétide de Virginie, tout ça s'est mélangé et a créé une espèce d'immense ciel bleu chaotique qui nous englobait tout entier et on pouvait entendre le moindre bruissement des oiseaux, le moindre battement d'ailes des oiseaux, le moindre bruissement des fougères autour de nous et tous les loups de la forêt nous épiaient en silence et on en était sûr, ils étaient jaloux de nous. Tout se transformait en de sublimes outils à notre disposition afin que nous créions notre propre monde. Nous sortions du monde d'explication. Nous découvrions un monde dans le monde. La brutalité du monde et des hommes se révélait à nous comme la réponse absolue, claire et nue. Nous aimions et étions aimés. Il existait un imprévu dans ce monde d'explication. L'amour. Il existait un instant où le monde subissait la plus radicale des transformations, où le monde des explications s'effaçait pour nous laisser voir le monde réel. C'était le moment de l'amour. On avait détruit, on avait transformé, on s'était laissé surprendre et c'est ça qui nous offrait l'amour. Nous étions les plus grands enfoirés de tous les temps si on ne voyait pas ça. L'amour n'avait en fait qu'un détour, et un seul. Ce détour, c'était l'action. Parce que l'amour n'a pas d'explication, non. Il a des preuves. Et elles ont beau être lentes et compliquées à venir. Elles sont immédiates, les preuves. Elles valent autant que l'amour. Non qu'elles soient la même chose que l'amour ou un équivalent de l'amour, mais elles ouvrent une perspective sur une face réelle du monde. Sur l'action.
Eh bien, merci Mathias Varenne pour cet avant-goût de la preuve que tu présenteras donc les 16 et 17 juin prochains à la Bellone dans le cadre des Laboréales 2012. Ce sera à 23h30. Alors une petite question quand même, qu'est-ce qui pousse à explorer des sujets pareils? Est-ce que c'est la volonté de repousser une certaine limite?
En soi, il y a déjà une fantasmatique personnelle et un intérêt personnel.
On est ce qu'on pourrait appeler dans presque le cinéma de genre, si ça...
Ouais.
Voilà, mais est-ce que c'est ça aussi qui t'a...
Oui, il y a quelque chose de l'étude de l'âge de l'adolescence, de l'étude de l'âge trouble, de l'étude de tous ces artistes que sont Dennis Cooper, Gus Van Sant, Harmony Korine, ils sont tous amis en plus, enfin voilà, il y a toute une bande comme ça qui effectivement s'amuse... Je ne sais pas si ça a repoussé les limites, en tout cas à prendre en charge certains discours qui sont limites et à les porter le plus loin possible, sans forcément eux-mêmes penser ce que ces discours proposent.
Et on est sûr aussi que pour un comédien, être porté par un son pareil aussi, c'est avantageux. On dit bravo d'ailleurs à Damien Petitot pour l'ambiance sonore. Et voilà, il est aussi à l'origine des poupées qui sont sur scène, des poupées mannequins. Voilà, donc ce sera à voir les 16 et 17 juin prochains dans le cadre des Laboréales à 23h30 à la Bellone. Et un petit coup d'œil peut-être sur les autres créations qui seront visibles également, Olivier.
Oui, il y aura une installation sonore de Julien Poidevin, Cityscore. C'est une recherche autour du paysage sonore entre Mons et Bruxelles. Et puis, il y aura une chorégraphie d'une foule de gares de Bulin Barbieux, The Curious Sal des Pas Perdus. Il y aura une tragédie grecque sur Magnéto de Lia Drouet qui s'intitule O.E. Et il y aura une performance avec des bétonnières de Sébastien Rien et Oppana Kramer, Concrete Mixers.
Alors il faudra composer ces soirées, bien évidemment, trois soirées. Toutes les créations ne sont pas visibles tous les soirs. D'ailleurs, Mathias, ce sera uniquement le samedi et le dimanche. Cependant, je crois qu'il y a quatre créations par soirée, c'est bien ça? Voilà, qui c'est sont ça. Visibles, mais bon, avec les horaires sans doute qui se superposent. Ça se passe dans la grande cour, généralement.
Et dans le studio.
Et dans le studio de la Bellone. Tous les renseignements sur www.bellone.be. Alors, rappelez que c'est une soirée à 7€ et c'est pour la soirée. Donc, ce n'est pas un prix par création. Les réservations sont souhaitées au 0490-43-91-57. 0490-43-91-57. Voilà pour tout le programme. On vous remettra ça, bien évidemment, sur notre site internet. Merci encore une fois, Mathias Varenne, et on ira voir ça avec plaisir. Ça dure 45 minutes, hein, je crois.
À peu près, oui.
Voilà. Ok. Place à la danse, peut-être ? Ou encore un petit quelque chose, Olivier, là-dessus ?
Non,
voilà, ok. Place à la danse maintenant, et la troisième semaine et dernière semaine du D Festival, avec la nouvelle création de Lise Vachon, Zone.
Voilà, c'est sa troisième chorégraphie. Donc Lise Vachon est une interprète que l'on peut voir chez Anne-Thérèse de Kersmaker, chez Michel Noiriet, ici dernièrement dans Minute Opportune, ainsi que son compagnon de danse, Igor
Chichko,
qui est aussi issu de Parts, qui a aussi travaillé chez Anne-Thérèse de Kersmaker, aussi chez Michel Noiriet. Et donc pour ce duo, Lise Vachon s'est inspirée du Grand Nord, des icebergs, de la chimie des icebergs, des mouvements imperceptibles ou très perceptibles comme les craquements. Voilà, donc la bande-son de ce duo évoque assez clairement et littéralement le bruit que font la glace et les glaciers, ces bruits très impressionnants d'os qui craquent.
Il y a urgence.
Voilà, mais il y a aussi une conscience écologique et politique derrière le propos de Lise. La scénographie est assez simple et efficace. C'est un immense tissu argenté qui sert de scène de fond, sur lesquels sont projetées des lumières assez crépusculaires, lunaires. Et chorégraphiquement, moi, c'est là où je mettrais un petit bémol. Je suis un peu resté sur ma faim. Ça manque un peu de contenu. Donc, on est au départ avec ces deux...
Donc, tu l'as vu à la générale.
Ah, voilà, c'est une générale. Donc, ça va, ce soir, ce sera mieux.
Voilà. Justement, alors, les icebergs, comme on dit, c'est la différence aussi des états de la matière. Ça passe du solide au liquide, du liquide au solide. Est-ce que dans la chorégraphie, on ressent
ça ? Voilà, tout à fait. C'est un peu le leitmotiv de la pièce. Les deux danseurs sont, tout au début de la pièce, collés l'un à l'autre. Et les mouvements c'est des micro-mouvements, c'est des mini-torsions, c'est des balancements, c'est très imperceptible. Le début de la pièce est vraiment très, très, très beau, très envoûtant. Et petit à petit, avec l'éclairage qui devient plus important, qui prend la place sur le plateau, les deux personnages, les deux danseurs vont également s'étaler sur le plateau et suivre aussi des mouvements beaucoup plus amples, beaucoup plus énergiques et évoquer ce passage de l'état solide à l'état liquide, de la glace qui fond. Et
alors, au niveau de l'ambiance sonore, tu disais qu'on était en plein dans cette nature également, mais il y a du musical également?
Non, il y a trois interventions parlées de... Je pense que ce sont des spécialistes de l'écologie ou de la glace et qui tiennent un propos autour de l'importance que ont la glace et les icebergs dans les cycles environnementaux aujourd'hui.
Mmh. Réserve d'eau douce, hein. Les icebergs. Réserve d'eau douce.
Voilà, tout à fait. Donc voilà, cette dimension écologique et de prise de conscience, elle est bien présente. Et elle est bien montrée aussi par Lise Vachon.
Ces icebergs jadis perçus comme immuables et aujourd'hui vus comme matière dynamique, c'est ce que nous dit en tout cas l'avant-propos de ce spectacle Zone, à voir du côté du Théâtre Marny
jusqu'à ce samedi, et c'est à 20h, et c'est suivi dans le bar du Théâtre Marny du spectacle Brusello du collectif Osa Mayor, qui est un voyage sensoriel qui évoque Bruxelles également.
Dernier coup d'éclat, ou en tout cas à voir, en tout cas du côté du Théâtre Marny, avec Lise Vachon et Igor Chichko dans le spectacle Zone, www.theatremarny.com. On va un petit peu du côté de la Chaussée Saint-Pierre et de l'Atelier 210 qui nous propose sa dernière création.
Sur les planches, c'est une dernière création importante, puisque toute la salle du 210 en fait a été métamorphosée. On a un peu retirer les gradins, on a inversé le sens de la scène et on est comme dans un hangar ou comme dans quelque chose d'un peu brut. Est-ce que c'est un parking underground avec des fresques et tout ça? Enfin voilà, on est dans une ambiance là pour une pièce qui s'intitule « Ceux qui marchent dans l'ombre » et qui est de Anoush Levin, mise en scène par Lara Houbinon. Et ben voilà, ça parle de quoi ? Ben de déambulation nocturne de trois personnages. Et c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à mettre une étiquette ou à résumer le propos, parce que finalement tout est éclaté. Il y a des morceaux de dialogue entre ces trois personnages qui déambulent. Il y a d'abord différents statuts dans les personnages. Il y a ces trois déambulateurs et puis il y a leurs pensées. Alors évidemment, on a un code qui fait que on comprend, mais les pensées sont là. Et puis il y en a qui sont là, mais en s'excusant un peu d'être là parce qu'ils sont finalement que récitants et puis peut-être qu'ils reviendront une autre fois. Et puis alors, on a, ben, il y a les vivants et puis il y a les morts. Et donc, on passe sans arrêt d'un code à l'autre, ou bien on est dans le dialogue. On est aussi dans des apartés. Ce qui fait la grande cohérence du texte, c'est le deuxième degré. On est toujours au deuxième degré. Donc, c'est ça qui fait que c'est un peu difficile de dire « Ouh, ça parle de ça !» Mais ça parle entre autres de la cohabitation entre la vie et la mort, puisqu'on pourrait résumer, s'il fallait vraiment le faire, résumer ça entre les dernières heures d'un homme qui va perdre sa mère et ne le sait pas. Donc, il y a vraiment cette notion de vie et de mort qui sont proches. Et ça s'explique tout à fait, puisque l'auteur était condamné par un cancer au moment où il a écrit cette pièce. Donc c'est, voilà.
Et 36 personnages, on nous annonce, évidemment pas 36 comédiens.
Non, non.
Est-ce qu'on arrive à fixer les identités facilement? Est-ce qu'ils se définissent d'une certaine manière quand ils interviennent?
Oui, non, tout est tout à fait clair dans la mise en scène. Quand les pensées sont là, on a vraiment quelque chose qu'on a déjà vu, mais ils sont là avec la petite lampe de poche, on ne voit que les visages, donc on comprend très bien. Et puis il y a quelque chose de répétitif aussi dans le texte aussi, et puis on a cette espèce de notion de road movie comme ça, avec par étapes, et puis ils quittent leur domicile, et puis ils y retrouvent, donc on s'y retrouve, hein. non, c'est pas du tout, au contraire, c'est assez cohérent, mais je pense qu'il faut peut-être entendre le texte plusieurs fois pour retrouver tout son jus comme ça, mais voilà.
Et le ton général est humoristique, sarcastique?
Le ton général est vraiment deuxième degré, oui. Et puis il y a un grand invité qui est Dieu aussi, donc voilà, ça m'a fait bien plaisir de l'avoir. J'ai toujours douté de son existence, mais non, je l'ai vu hier. Non, il y a quand même ce clin d'œil qui est permanent, qui fait que oui, bien sûr.
Comment est traduite la déambulation dans la mise en scène?
Alors la déambulation, elle est traduite justement par le dispositif en fait, qui fait qu'on a un peu vidé, on a enlevé les sièges, on a fait un grand espace au milieu, et puis les comédiens, ben, l'espace est grand, donc ils sont trois aussi, donc c'est pas vraiment le chœur antique où ils sont 30, non, ils sont trois à se bouger, donc ça va, et puis ils passent dans les gradins, ils passent dans les spectateurs aussi. Et la salle du 210 n'est pas une salle classique de théâtre. Il y a une scénographie très intelligente et très bien qui nous donne encore en prime, je ne vais pas vous le dire, parce que vous allez y aller, bien sûr, qui donne en plus une vue sur l'au-delà, on va dire. Donc on utilise tout l'espace de cette grande salle du 210, mais de manière un peu inhabituelle, si vous êtes habitué de cette salle.
Ceux qui marchent dans l'obscurité, d'Anok Levin, mise en scène par Lara Hubinon, c'est à voir jusqu'au...
C'est à voir jusqu'au 30 juin et c'est vrai qu'il y a une distribution quand même,
oui, qu'on peut citer, évidemment.
Qu'on peut citer, mais qui est aussi assez méritoire. Et on a Vincent Lécuyer qui surnage un petit peu et qui met la barre assez haut pour la jante masculine, mais j'ai personnellement été bien touchée par les jeunes filles. Je trouvais que les femmes se sont bien...
Annette Gatta.
Voilà, je trouve qu'elles se débrouillent vachement bien, vraiment, voilà.
Il y a également Grégory Carnoli, Julien de Bormann et Renaud Van Kamp sur scène pour cette création et dernière création de la saison pour l'atelier 210. Encore deux minutes pour parler de quelques spectacles à venir et qui se jouent notamment en ce moment, notamment du côté du Théâtre Océan Nord avec Wojciech.
Voilà, Wojciech de Georges Buchner, mise en scène par Thibaut Wenger, c'est jusqu'à ce samedi 16 juin à 20h30. C'est l'histoire du garçon soldat qui est pour... nourrir sa famille, va accepter différents travaux, dont le coiffeur d'un militaire, dont il va
aussi l'éternel souffre-douleur.
Voilà, c'est ça, c'est l'éternel souffre-douleur jusqu'à la folie. Et voilà, ce serait intéressant d'aller voir comment le jeune Thibaut Wenger l'a mis en scène.
C'est à voir jusqu'au 16 juin et c'est du côté du Théâtre Océan Nord, www.oceanord.org. Et enfin, un travail, justement, Armel Roussel qui est là, un ami de notre Mathias Varenne, invité aujourd'hui. Lui, c'est un véritable chantier, une œuvre titanesque qu'il a tenté de mettre en scène avec les élèves de l'INSAS.
Voilà, c'est le
Angel
Cinemerica de Tony Kushner. dirigée ici par Armel Roussel. C'est la production de fin de Masters de l'INSAS. C'est au Théâtre National. Je pense qu'à la base, c'était...
Alors, en deux mots, c'est une pièce, donc, comme tu disais, Tony Kushner. Ça parle un petit peu de la prise de conscience du sida au milieu des années 80 dans un New York. Divers personnages, c'est un entrecroisement de personnages, des familles également qui sont là. On parle de l'arrivée aussi de ce virus auprès des homosexuels aussi qui prennent conscience de cette maladie. Et c'est aussi animé avec quelques instants plus décalés, avec l'intervention d'anges, rockers, un petit peu. Voilà, c'est un peu aussi à la Dickens là.
C'est vraiment une comédie humaine. Hein.
Et vous avez peut-être pu aussi voir l'excellente mini-série qu'il y avait eu avec Meryl Streep et Al Pacino, voilà. Angels in America, c'est à voir jusqu'au 17 juin. C'est du côté du Théâtre National pour les 50 ans de l'INSAS, si je ne m'abuse.
Aussi.
3xw.
C'est gratuit.
Théâtrenational.be. Et il faut le signaler également. Je crois qu'on a tout dit.
Oui.
Voilà, ouais. Parfait. Merci en tout
cas
d'avoir été avec nous. Merci
Elisabeth.
Merci Olivier. On vous rappelle bien sûr que le podcast de cette émission, eh bien, c'est sur demandezleprogramme.be et sur le site de La Bellone également. Très très belle semaine à vous et à très bientôt.
Constelación.